Donc merci de votre soutien. Nous poursuivons notre émission et nous retrouvons en direct d'Octon en Virginie. Cette fois, Jared Taylor. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui. Oui.
Merci, Monsieur Taylor, d'être dans notre émission. Vous êtes donc sur Radio Courtoisie, l'émission de Max Lebrun. Et avant de vous poser plusieurs questions, je tiens à préciser une chose à nos auditeurs. Dès lors qu'on aborde la question des groupes de pression, et notamment des groupes de pression culturels, raciaux, en France, on n'est pas très à l'aise. On est dans la culture révolutionnaire, inspirée de Rousseau, où entre l'État et le citoyen, il ne doit pas y avoir l'épaisseur d'un papier à cigarette. Aux États-Unis, les groupes, eux, sont très nombreux. Alors parfois, ça va jusqu'à des situations absurdes. Il suffit de regarder encore le New York Times d'aujourd'hui. Nous avons dans à la une des pages opinion un article de Jennifer Finney Boylan intitulé « We want cake too ». Nous voulons aussi de la brioche, en référence à cette fameuse citation qui était attribuée à Marie-Antoinette, qu'elle n'aurait jamais prononcée, en fait, qu'on a retrouvée là aussi dans un ouvrage de Rousseau de 65, donc elle avait 8 ans à l'époque, peu importe. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien, elle explique qu'elle est à la tête d'un groupe transgenre, donc ceux qui ont changé leur sexe par opération médicale, et estime que si les droits des homosexuels a avancé aux États-Unis, celui des transgenres est laissé sur le bas-côté de la route et la situation doit changer parce que, elle précise bien, statistiques à l'appui, qu'ils sont victimes de la pauvreté, ils se suicident plus que les autres, ils sont victimes d'harcèlement sexuel, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des groupes sur tous les thèmes possibles aux États-Unis. Je pense que nos étudiants que nous avons reçus tout à l'heure l'ont observé. Alors, avec vous, nous allons étudier un certain nombre de groupes particuliers, les groupes notamment sur base culturelle et ethnique. Je rappelle que vous êtes le directeur et l'éditeur du magazine American Renaissance, qui met en exergue une citation de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. J'ai traduit « Il n'y a comme cela, il n'y a aucune vérité que je ne craigne ou que j'aimerais cacher au monde entier ». Alors, nous allons voir avec vous quelles sont ces vérités que vous vous efforcez de faire connaître aux Américains. Ma première question est celle-ci. Est-ce que dès les origines aux États-Unis, la question du rapport entre les races a été posée? Est-ce que les pères fondateurs écrivent sur cette question? J'arrête Taylor.
Ah oui, certainement. Tout d'abord, je suis très honoré de passer à la radio Courtoisie et je vous remercie de m'avoir invité. Mais oui, certainement, les fondateurs, surtout Jefferson, il a dit que, pendant cette période-là, il y avait bien sûr de l'esclavage. Mais lui, comme beaucoup de fondateurs, James Monroe, il y avait aussi beaucoup d'autres plus tard, qui ont cru que l'esclavage, c'était un fléau, c'était quelque chose d'horrible, mais une fois libéré, les esclaves, les Noirs, devraient être renvoyés des États-Unis parce que une société mixte, une société métisse, si vous voulez. Pour eux, c'était tout à fait incroyable. Et ce mouvement de renvoyer les Noirs libérés, ça a persisté jusqu'à la période d'Abraham Lincoln. Lui, il est connu comme être le président qui a libéré les esclaves. Mais lui aussi, il ne voulait pas du tout une société mixte. Aussi, il faut le dire, pour un nouveau pays, surtout un pays d'immigration comme les États-Unis, quelque chose qu'il fallait décider dès le début, ce serait de savoir quelle sorte de personnes ils allaient recevoir. Et dans la première loi sur l'immigration et la nationalité américaine, c'était bien marqué, c'était en 1790, c'était indiqué que seulement les hommes blancs libres seraient reçus en tant qu'immigrés. Donc oui, dès le début, on avait considéré ce problème de race et on a pris des mesures pour garantir une majorité blanche.
Alors la deuxième question, c'est ensuite, il y a tout un combat pour l'égalité juridique entre noirs et blancs. Est-ce que comment s'est passé ce combat, jusqu'à à partir de quelle date il y a eu une égalité juridique? Et la deuxième question concerne ce dont on parle peu, mais qui était là depuis quand même longtemps, sont ceux qu'on appelle les Indiens américains ou les natives américaines, enfin les Indiens. Est-ce qu'eux aussi, ils avaient un statut juridique particulier ou ils n'étaient pas concernés par les lois du pays?
Bon, tout d'abord, la question des Indiens, c'est un petit peu plus facile à répondre. Pendant très longtemps aux États-Unis, les Indiens n'étaient pas considérés comme citoyens des États-Unis. C'était seulement en 1926 qu'il y a eu une loi qui avait accordé la nationalité des États-Unis, enfin la citoyenneté américaine, aux Indiens. Et même maintenant, les Indiens qui habitent dans les réserves, ils ont des statuts préférés. Il y a ils bénéficient des lois préférées. Et ils peuvent, par exemple, quelque chose qui est très répandu dans les réserves indiennes, parce que les droits fédéraux ne s'appliquent pas à ces personnes. Ils peuvent monter des casinos et maintenant on gagne énormément d'argent dans les casinos indiens. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent parmi leurs ancêtres pour savoir s'ils n'ont pas la possibilité de dire qu'eux, ils sont indiens, parce que tous les Indiens, enfin maintenant à peu près la majorité des Indiens, bénéficient énormément du fait qu'on a le casino dans les réserves. Mais non, depuis très longtemps, ils avaient une statut différent, fondamental, et maintenant, sur certains aspects, en ce qui concerne, ils reçoivent des bénéfices médicaux, sociaux, etc., qui ne sont pas accordés aux autres personnes aux États-Unis. Alors, la question du statut juridique des Noirs, ça c'était une très longue histoire. Parce que c'est seulement récemment, c'était pendant seulement les années 50 et 60, que l'administration fédérale avait décidé que c'est au niveau fédéral qu'il fallait trancher ce genre de choses. Donc, dès le début, enfin pas vraiment dès le début, mais il y avait certains États, surtout dans le nord des États-Unis, où il y avait l'égalité presque totale entre les races. L'État de Vermont, c'était le premier qui a aboli l'esclavage, et c'était avant la guerre d'indépendance. Et donc, c'est surtout dans le sud des États-Unis où il y avait des aspects difficiles pour les Noirs. Et c'est certainement le cas. Il y avait de grands obstacles pour les Noirs. Il ne fallait pas travailler dans certaines occupations. Il y avait des écoles qui étaient ségrégées et il n'y avait pas beaucoup d'argent pour les écoles noires, etc. Mais tout ça, c'est fini en 1964. Et à partir de ce moment-là, vraiment, le statut juridique des Noirs, à partir de ce moment-là, c'est vraiment la même chose qu'aux États-Unis. Et en même temps, l'État fédéral s'est emparé des pouvoirs qui étaient réservés aux États jusqu'à cette période-là.
D'accord. Alors, égalité juridique, on attend 1964 pour la généralisation à tous les États, mais très vite, une revendication pour l'inégalité juridique, à nouveau, sous le couvert de la discrimination positive et donc de droits particuliers accordés à certaines catégories. Comment s'est opéré ce glissement qui semble être arrivé très rapidement? Et quels ont été les arguments invoqués? Puisqu'on a souvent en tête l'argument des réparations. Est-ce qu'il y avait d'autres arguments évoqués? Est-ce que cet argument des réparations, évidemment, pouvait marcher pour d'autres communautés nouvellement arrivées, je pense aux
Oui.
Asiatiques ou hispaniques?
Ah, oui, comme vous dites, c'était un changement de revendication extrêmement rapide, jusqu'au passage des lois dont je vous ai parlé. Et on disait non, on veut, on, nous les Noirs, on veut qu'on nous traite à titre d'égalité avec les Blancs. Mais c'était seulement 2 ou 3 ans après que les revendications ont changé. Et c'était le président Johnson, celui qui est arrivé après l'assassinat de John Kennedy, qui lui, il avait proposé pour la première fois un traitement spécial pour les Noirs. Et la base théorique, c'était bon, très bien, ils ont été victimes de discrimination, il y avait des barrières érigées contre eux. Et donc, il faut de la compensation. Et c'est quelque chose qui est passé extrêmement vite aux États-Unis, surtout encore au niveau fédéral. Et ça, au début, le raisonnement, c'était il faut compenser les Noirs à cause des problèmes du passé. Mais maintenant, ça fait déjà 50 ans qu'on avait éliminé toutes ces lois qui sont contre les Noirs. Et donc maintenant, on a un raisonnement différent, c'est-à-dire que les Blancs vont bénéficier de la diversité s'ils ont l'occasion de travailler avec les Noirs ou d'aller à l'université avec les Noirs. Et donc, un Noir qui veut, qui fait une demande d'entrer à l'université ou dans une grande société, il est admis avec des qualifications nettement inférieures qu'aux Blancs qui ne sont pas reçus. Alors, on a fait des études très approfondies à ce sujet et c'est quand même la différence de niveau de qualification est quand même scandaleuse.
Alors, cette discrimination positive qu'on connaît un petit peu en France, notamment dans le secteur éducatif, donc il y avait l'explication marxiste habituelle, il y a une séparation entre dominants et dominés, les riches qui exploitent les pauvres, et donc si vous venez d'un milieu moins aisé, comme vous ne réussissez moins statistiquement, vous avez moins de chances statistiquement de réussir, eh bien on va créer une inégalité juridique pour arriver à une égalité réelle. Cette explication économique s'est étendue avec ce qu'on appelait les gauchistes dans les années 60 et 70, à toutes les dimensions, puisque on sait que les hétérosexuels dominent les homosexuels, le critère dominant-dominé s'applique à un nombre indéfini maintenant de catégories, et on le connaît pour l'éducation, où là aussi, s'il y a un malaise, on invoque soit, on parle de critères sociaux et économiques, soit certains commencent à avouer que ce sont des critères raciaux ou de diversité. On a mis ça en place dans les facultés. Aux États-Unis, ce système de discrimination positive est beaucoup plus appliqué et étendu. J'ai découvert ça assez récemment, même dans l'entreprise, on a des situations absolument incroyables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe aussi lorsque vous êtes responsable d'entreprise et que vous voulez décrocher un contrat? Sur quelle base sont attribués les contrats et quels sont comment la race rentre en ligne de compte?
Oui, c'est quand même extraordinaire. L'administration fédérale ainsi que les administrations locaux comme les comtés et les États. Et quand on veut vendre quelque chose à l'État ou à la comté, et en anglais on dirait des bids, on propose un prix pour le travail, pour le service. Et si le propriétaire de l'entreprise est noir ou hispanique ou parfois femme, on peut recevoir le contrat même si le prix proposé est élevé de jusqu'à 15 ou peut-être même 20% d'une société qui est détenue par les Blancs. Ça, c'est très répandu, mais ça varie selon l'État et selon la comté. Mais avec l'administration fédérale, c'est toujours le cas. En même temps, aux États-Unis, surtout pour les grandes sociétés, on est obligé de faire un compte rendu à l'État fédéral pour dire quel pourcentage de cadres et d'employés sont des minorités préférées. Et s'il n'y a pas la quantité suffisante, c'est effectivement un quota. Si on n'arrive pas à ce taux de minorité, de noirs ou d'hispaniques, alors on est obligé d'expliquer au département de justice aux États-Unis pourquoi on n'a pas suffisamment de personnes de couleur. Et alors, dans les cas extrêmes, si les explications ne sont pas suffisantes, l'idée, c'est s'il n'y a pas le nombre nécessaire, c'est à cause de la discrimination. L'idée que certains groupes n'ont pas les mêmes qualifications, ça marche pas si on veut se disputer avec les gens qui... Donc, on est obligé de payer des amendes, etc. Et pour éviter tout ça, la meilleure façon d'agir, c'est d'avoir un quota à tous les niveaux, cadres, employés. Il faut toujours surveiller aux gens qui travaillent dans la société pour être sûr qu'on a suffisamment de Noirs, d'Hispaniques et parfois des femmes selon la circonscription.
Alors, oui, je vous ai interrompu, je vous en prie.
Il y a aussi, comme je vous dis, nous avons fait sortir un livre sur cette question, ce qui s'appelle The Affirmative Action Hoax, peut-être on dirait l'arnaque de la discrimination positive, mais Par exemple, il y a des examens pour entrer dans les écoles de médecine. Et si on compare les résultats pour les gens qui font des demandes, les Asiatiques et les Blancs, ils ont des notes très élevées, les Hispaniques bien moins élevées et les Noirs un peu encore moins élevés. Mais les Noirs qui sont reçus, c'est souvent le cas, ils ont eu des notes qui sont inférieures, bien inférieures aux Blancs qui sont rejetés, qui ne sont pas reçus. Et on trouve après, enfin, les gens qui. Il y a beaucoup de minorités comme ça qui sont entrées avec des qualifications très basses, qui ne terminent pas leurs études. Ils trouvent trop difficile. Pourtant, en même temps, il est clair que les professeurs donnent des notes satisfaisantes. On donne la moyenne aux Noirs ou aux Hispaniques parce que les faire sortir à cause des notes insuffisantes, ça serait scandaleux. Mais donc, mais à la fin, il y a des examens pour devenir médecin. Et alors, ils échouent en grand nombre à ces examens aussi. Mais là aussi, il y a des pressions très très fortes pour agir à ce que les Noirs et les Hispaniques passent au même taux, dans les mêmes pourcentages que les Blancs, les Asiatiques. Les pressions sont vraiment partout pour faire avancer des Noirs et des Hispaniques, même s'ils n'ont pas les qualifications. C'est une situation extrêmement dangereuse et j'espère que ça ne se produit pas en France.
Alors, au moment où on le met en place progressivement en France, est-ce que la discrimination positive, elle, est remise en cause aux États-Unis? Est-ce que les effets pervers, maintenant, qui sont connus, qui sont nombreux, j'ai lu des articles sur les effets pervers de la discrimination positive aux États-Unis. Alors, on nous explique que maintenant, des Blancs vont remplir les dossiers en mettant qu'ils sont noirs, qu'ils s'identifient comme noirs ou hispaniques, en insistant sur la subjectivité de l'appartenance à telle ou telle race, ou ils vont rechercher un ancêtre de la 15e génération qui aurait été noir ou hispanique. Autre effet pervers, c'est celui, par exemple, de domaines comme les médecins. Si vous êtes un médecin noir, certains vont suspecter ce médecin d'avoir eu ses diplômes au bénéfice de la discrimination positive et ne vont pas peut-être le consulter alors même qu'il a peut-être toutes les compétences pour, et sans parler de la discrimination que subissent les Blancs et qui, eux aussi, font des procès. Régulièrement, on entend parler de ces procès des pompiers ou d'autres domaines. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça commence à être remis en cause ou pas du tout? C'est un tabou à ne pas toucher.
Ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est que les Blancs sont toujours majoritaires, mais le niveau de contestation est extrêmement faible. C'est quand même étonnant. Tout le monde comprend parfaitement qu'il y a ces barrières maintenant. C'est la discrimination, enfin en France, on se sert du terme discrimination positive. Alors, pour les Blancs, c'est une discrimination tout à fait négative, mais c'est tout à fait compris. Mais le niveau de contestation est très bas. Et ce qui est encore étonnant, c'est le fait qu'au niveau du Congrès des États-Unis, ou bien au niveau des législatives dans les États, on arrive pratiquement jamais à passer des lois pour abolir ce genre de préférence pour les non-blancs. Et la seule manière d'y arriver, il y a de temps en temps dans certains États, il y a une méthode pour laquelle on met un projet de loi on dirait peut-être bottage, c'est-à-dire qu'on vote, tous les citoyens votent pour un projet de loi. Ça passe pas par la législation. Et dans certains États, comme la Californie et comme le Michigan, on a arrivé à mettre ce genre de ballotage et on passe ça devant les électeurs. Et quand ça arrive, alors, une énorme majorité de Blancs, bien sûr, ils vont voter pour l'égalité de traitement de toutes les races. Donc, dans certains États, on est arrivé à passer ce genre de loi par le biais de ce ballotage qui passe pas par législation. Mais les gens qui sont élus, même au niveau fédéral, au niveau des États, eux, ils n'ont pas le courage de lutter contre ces préférences pour les non-Blancs, parce que ils risquent d'être appelés, d'être traités comme des racistes. C'est vraiment une situation tout à fait incroyable.
Alors, vous venez de publier un nouvel ouvrage qui est intitulé White Identity, Racial Consciousness in the 21st Century. aux éditions, je vais traduire, donc L'identité blanche, la conscience raciale au XXIe siècle, aux éditions New Century Books. Et c'est votre deuxième grand ouvrage. On va revenir sur la thèse de votre ouvrage, ce que vous abordez. Mais ce que je note déjà, c'est que dans les années 90, vous aviez publié Pavé de bonnes intentions, un autre ouvrage, Pave with good intention, je crois en anglais. Et à l'époque, vous étiez distribué par des grands groupes de presse, vous étiez invité dans les chaînes de télé comme CNN. Aujourd'hui, rien de tout ça, publication et distribution très difficiles, peu d'invitations dans les grands médias, sauf erreur de ma part. Que s'est-il passé? Est-ce que la situation sur le plan de la liberté d'expression, du débat, a changé? Ou est-ce que c'est les thèses de vos ouvrages qui ont beaucoup évolué?
C'est un peu les deux. Le thèse de mon premier livre sur les rapports raciaux aux États-Unis, c'était le grand thème de ce livre-là, c'était de montrer jusqu'à quel point la discrimination contre les Noirs a quasiment disparu. C'est-à-dire, si on compare un Noir avec vraiment les mêmes qualifications, un Noir et un Blanc, alors comment sont-ils traités dans la société américaine? Et on trouve que, à cause de cette affirmative action, la discrimination positive, si on trouve un noir et un blanc avec vraiment tout à fait les mêmes qualifications, le noir risque de s'avancer plus rapidement dans la société, de gagner plus d'argent, etc. Aussi, en même temps, il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis qui disent qu'il n'y a plus de noirs en prison, exclusivement parce que la police et le système judiciaire discriminent contre les Noirs. Alors encore, si on fait des études très très soigneuses sur cette question, avec des statistiques qui viennent des départements de justice, etc., on trouve que ce n'est pas du tout le cas. On trouve que si on compare les gens, les gens vraiment équivalents, on trouve que les Noirs sont en prison parce qu'ils ont commis bien plus de crimes par rapport aux Blancs. Et on trouve en même temps que les Asiatiques ici aux États-Unis, par tête de population, eux, ils commettent à peu près un tiers des crimes des Blancs. Et aussi, eux, ils sont en prison à peu près le même taux, seulement un tiers du taux des Blancs. Donc, si on fait attention aux faits, on trouve qu'il y a extrêmement peu de phénomènes qu'on pourrait attribuer à la discrimination raciale. Les groupes raciaux aux États-Unis sont traités d'une manière égale, donc les résultats, quand ils sont différents par race, ça résulte du fait que le comportement des gens des races différentes est différent. Le comportement est différent et voilà, c'est ça qui explique les différences de résultats. Alors, mon livre plus récent, je vais un peu plus loin, et comme vous avez parlé du titre du livre, White Identity, Identité blanche, ce que je dis dans ce livre, c'est que parce que tous les autres groupes aux États-Unis, ils ont des groupes de pression, ils ont une identité de groupe, et ils luttent parfois très férocement pour leurs intérêts. Si c'est seulement les Blancs qui n'ont pas une identité de groupe, on sera quand même mis à côté par les groupes qui ont vraiment une grande faim pour avancer, même aux dépens des Blancs si besoin.
Précisons alors, je vous interromps une seconde, j'arrête alors. Précisons pour nos auditeurs qui sont peu familiers avec la situation, nos auditeurs de Radio Courtoisie qui sont peu familiers peut-être avec la situation américaine, quand vous dites qu'il y a des groupes organisés sur base raciale, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'à la Chambre des représentants, vous avez le comité des élus noirs et qui sont présents et qui se représentent comme tels lors des votes, lors des revendications politiques. Vous avez aussi des télés Black TV, Proud TV, la télé noire. Vous avez des tas de groupes comme ça. Vous avez maintenant des groupes aussi des commissions d'hispaniques. Et donc, quand vous dites qu'il y a une forte présence et une revendication de groupes, c'est qu'ils sont gros, ils sont organisés, institutionnalisés, voire au sein même des pouvoirs décisionnaires politiques. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, ce qui est impensable, enfin pour le moment, ou ce qui est peu le cas. Ça commence, après tout, il y a eu le CRAN qui a été créé dans la foulée du CRIF, qui était le Conseil représentatif des institutions juives de France, et nous avons maintenant le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, donc un peu dans cet état d'esprit. Mais je vous laisse poursuivre sur la nature de ces groupes et la différence entre l'organisation possible pour les minorités et celle qui ne semble pas possible pour les Blancs, alors.
Oui, j'ajouterai quelque chose d'intéressant en ce qui concerne ce groupe de représentants en Congrès. Pour faire partie du groupe noir, par exemple, il faut être noir. Alors, de temps en temps, il y a un congressman blanc qui représente une majorité de noirs dans sa circonscription. C'est rare, mais ça arrive. Et alors, ces gens, ils ont fait demande de faire partie du groupe des noirs, mais non. Ils disent, nous, on représente beaucoup de noirs, il faut veiller sur les intérêts de nos électeurs. Mais non. De fait, l'essentiel, ce n'est pas de représenter les noirs au Congrès, l'essentiel, c'est d'être noir. Il faut être noir. Il y a une barrière biologique pour faire partie de ce groupe. Et c'est la même chose pour les hispaniques. Et eux, ils veillent sur les projets de loi, sur un seul optique, pour voir si ces lois, c'est bon pour nous. Alors, les intérêts du pays entier, ça ne leur intéresse pas. C'est la question, est-ce que c'est bon pour les hispaniques ou bien est-ce que c'est bon pour les noirs? Il y a un groupement pour les asiatiques, mais c'est un peu moins limité. S'il y a un blanc qui représente beaucoup d'asiatiques, il peut faire partie du groupe. Donc la conscience raciale chez les asiatiques, c'est un peu moins développé.
Alors, chers auditeurs, oui, je vous écoutais Radio Courtoisie, c'est Jared Taylor qui est en direct des États-Unis, et je me permets de donner la parole à Roman Bernard qui me fait un signe depuis quelques minutes, qui aimerait compléter peut-être votre propos ou réagir. Roman Bernard ?
Non, c'est une question que je vais poser à Jared Taylor. Est-ce qu'il n'est pas illégal, au regard de la loi américaine, de refuser l'entrée d'un groupe, même d'un groupe racial, à une personne d'une autre race ?
Ah, de faire entrer dans un groupe ?
De refuser l'entrée, oui.
Au Congrès, par exemple. Enfin, c'est le groupement législatif des Noirs qui font des règles, établissent des règles. Et donc, si un blanc dit non, je représente énormément de noirs, et le groupement dit non, alors il n'y a rien à faire. Ce genre de discrimination s'applique aux sociétés, aux entreprises, à partir des entreprises qui ont un nombre d'employés de au moins 10. Alors, les petites entreprises, on peut discriminer si on veut, mais à partir d'un certain taille, on ne peut pas, absolument pas dire non selon certaines catégories. Et c'est un peu la même chose au sein de tous les organismes aux États-Unis, si c'est une université, une brigade de policiers, organisme gouvernemental, il y a partout des groupes exclusivement pour les Asiatiques, les Noirs et les Hispaniques. Et si à l'université, par exemple, il y a un groupe d'étudiants qui disent « Mais nous aussi, on a besoin d'un club pour nous, pour étudier la culture européenne, ou peut-être avancer les intérêts des Blancs à l'université », alors l'administration dit toujours « Non, pour les autres, ça va, mais pour vous, absolument pas possible ». Mais donc, normalement, même dans une société, dans une grande société, si le chef d'entreprise est noir, s'il veut embaucher beaucoup de Noirs qui dépassent de loin le quota, alors personne ne pose pas de problème. Ça, c'est permis. Mais pour les Blancs, non.
Un des arguments contre la partité, le Tea Party, était de dire c'est un mouvement raciste puisqu'il y a 90% de Blancs dans ces manifestations. Là, vous nous dites, un groupe qui est composé que de Noirs ou d'Hispaniques, par exemple, qui ne laisse pas rentrer des Blancs dans son association ou dans le groupe parlementaire, lui n'est pas raciste. En revanche, la partité, sous prétexte qu'il y a 90% de Blancs, non même pas 100% donc, a été accusée de raciste. Est-ce que vous voyez le Tea Party comme aussi un mouvement identitaire blanc, où cette conscience raciale serait présente ou pas du tout? C'est d'abord un mouvement de base de la société civile où ces questionnements ne se posent pas?
Je crois que le Tea Party n'a pas vraiment de conscience raciale. Le Tea Party est 90% blanc pour la même raison que l'auditoire dans une séance d'opéra est 95% blanc. C'est quelque chose, baisser les impôts par exemple, c'est quelque chose qui intéresse surtout les Blancs. ainsi que l'opéra ou une pièce de théâtre de Shakespeare. On ne trouve que des blancs là-dedans. Mais les gens vont à l'opéra pas parce qu'ils ont une conscience raciale, mais parce que c'est quelque chose qui les intéresse, mais ça n'intéresse pas du tout aux Noirs, aux Hispaniques. Je crois que c'est un peu ça le parallèle. Pourtant, il y a certains membres du Tea Party qui se rendent compte que cette question de payer les impôts. Aux États-Unis maintenant, il y a à peu près 45% des foyers qui ne payent pas du tout de l'impôt sur le revenu. Et si on fait des études sur la distribution raciale, des gens qui payent, des gens qui reçoivent, c'est vraiment frappant à quel point c'est les Blancs qui payent et les Noirs qui reçoivent. Donc, on commence à se rendre compte à quel point il y a une distribution inégale, ce point de vue-là, mais les gens qui font partie du Tea Party, et j'en ai rencontré pas mal, je crois qu'ils n'ont pas du tout cette optique raciale.
Alors, chers auditeurs, je me tourne vers les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont soit des questions, des remarques à vous faire parvenir. Un auditeur nous dit « S'il vous plaît, un peu plus de compréhension pour les peuples indiens, si on veut pouvoir défendre nos droits de Français de souche. Quant aux Noirs américains, n'oublions pas qu'ils les ont fait venir enchaînés, ce qui est très différent de notre immigration. » Un autre auditeur ou auditrice, je ne sais pas, souligne et vous interroge sur l'affaire du certificat de naissance d'Obama. Vous savez que la Constitution américaine exige que tout candidat à la présidentielle soit né citoyen des États-Unis. On a un petit peu parlé de cette affaire sur Internet. Quelle est la réalité du débat aux États-Unis? Est-ce que il y a une éventuelle fraude ou sur le certificat? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
À vrai dire, sur le certificat de naissance d'Obama, c'est quand même pas une question qui m'intéresse beaucoup. Je crois que probablement on n'arrivera pas au bout de cette question. Mais ce que je trouve plus intéressant, la question sur les Indiens. Il est vrai, l'histoire des États-Unis, c'est une catastrophe totale pour les Indiens. C'est eux qui étaient maîtres dans cet énorme continent. Enfin, il est vrai qu'ils s'entretuaient entre eux. Il y avait pas mal de massacres d'un tribu par un autre. Mais c'était eux qui dominaient ces pays. Alors, à l'époque, c'était considéré comme normal qu'un peuple plus fort s'empare du pays d'un peuple plus faible. Enfin, la colonisation, etc., ça s'était fait partout dans le monde. L'expansion de tous les empires. Alors, les Arabes, les Chinois, les Mongols, etc. Mais non, l'histoire, jusqu'à un certain point, pour les Indiens, c'était vraiment la tragédie. Mais on peut pas revenir, on peut passer en arrière. Et donc, c'est à partir de à peu près des années 40-50 qu'on avait commencé à établir des statuts spéciaux pour les Indiens. Et donc, on les traite d'une manière préférée. Mais l'histoire est comme a dit votre auditeur. Alors, en ce qui concerne les Noirs, il est vrai que les Noirs ont été amenés ici par force aux États-Unis. Mais il faut signaler que depuis 1965, quand il y a eu un grand changement des lois d'immigration ici aux États-Unis, maintenant, on n'a plus d'immigrés africains qui sont venus de l'Afrique. Ça, ce nombre-là est plus élevé que le nombre, à peu près 800 000, des Noirs qui sont venus comme esclaves. Donc maintenant, c'est une destination d'immigration très préférée pour les Noirs. Et ça ne serait pas le cas si les Noirs étaient traités d'une manière désagréable ici.
Jared Taylor, nous, à l'école, nous apprenions le melting pot américain et cette idée que tous les groupes étaient mis dans un cercle de peau et étaient un peu mélangés. En fait, quand on arrivait aux États-Unis, on devait s'assimiler. Et aujourd'hui, le concept qui semble primer aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est encore dans les ouvrages de nos lycéens et collégiens, c'est le concept de salad bowl, plat à salade, où là, cette fois-ci, on arrive et chez toutes les communautés comme une salade, vous avez des tomates, de la salade, des olives, etc. Eh bien, chacun reste tel qu'il est. Est-ce que ça, sur le plan des concepts, ça s'applique aux États-Unis? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu ce glissement où il n'y a jamais réellement une melting pot? C'est un mythe. Il y a toujours eu un peu un salad bowl.
Monsieur Lebrun, vous êtes bien renseigné. Effectivement, il y avait un melting pot. il y a toujours quelques melting pots. Mais ce sont des melting pots qui sont un peu exclusifs de point de vue ethnique. C'est-à-dire quand l'immigration aux États-Unis était presque exclusivement européenne. Les gens qui venaient de la Suède, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Irlande, après deux ou trois générations, ils se marient entre eux, ils deviennent tout à fait comparables au niveau revenu, au niveau d'éducation universitaire, etc. Et maintenant, les Américains, c'est vraiment les Blancs, sont souvent des métis européens, si vous voulez, avec une partie d'allemande, même de français, d'huguenots, etc. Et on a un peu la même chose parmi les Asiatiques, les Chinois, les Coréens se marient entre eux, et les Guatémaltèques et les Mexicains se marient, il y a des mariages mixtes, etc. Donc, il y a toujours certains melting pots.
Merci, Jared Taylor. Je suis navré, je suis obligé de vous interrompre. Nous devons rendre l'antenne. Désolé de cette fin un peu brutale. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous retrouvons dans 4 semaines pour une nouvelle émission du Libre Journal des idées politiques. À très bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des idées politiques dirigé par Max Lebrun. Émission diffusée en direct vendredi 12 août 2011 de midi à 13h30. En différé l'après-midi de 16h à 17h30 et samedi 13 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission a été réalisée par Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 8 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.